Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Guillaume Pitron, qui, 3 ans après la guerre des métaux rares, signe une nouvelle enquête haletante sur les coulisses du numérique. Dans son ouvrage, le journaliste répond aux questions que les utilisateurs d'objets connectés ne se posent pas forcément et qui sont pourtant essentielles. Quelles sont les conséquences physiques de la dématérialisation? Comment les données impalpables pèsent-elles sur l'environnement? Et finalement, quel est le bilan carbone du numérique? Autant de questions auxquelles il répond également dans cet épisode. J'espère vraiment que cet échange vous plaira et surtout qu'il vous donnera envie d'en savoir plus sur l'impact environnemental du numérique. Je vous invite à suivre Basilic sur Instagram, @basilicpodcast, puisque nous y partagerons des ressources et des astuces pour consommer le numérique de manière plus durable. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir au micro de Basilic pour parler de votre dernier ouvrage. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Guillaume Pitron, j'ai 40 ans, je suis journaliste depuis l'année 2007. Avant cela, j'étais juriste, j'ai fait des études de droit, j'ai travaillé chez les cabinets d'avocats, j'ai travaillé en banque. Et puis je rêvais d'une vie de reporter de terrain et je m'imaginais davantage aventurier que banquier, et donc il y a 14 ans de cela, j'ai quitté cette vie corporate pour une vie un peu plus exotique à mon goût, et je n'ai accepté de réaliser ce métier que de journaliste, que parce que j'aurais été amené à voyager. Donc ce que je voulais faire, c'était voyager, et donc depuis tout ce temps-là, j'ai voyagé dans une quarantaine de pays pour diverses revues telles que Le Monde Diplomatique, National Geographic, Géo. Je suis également réalisateur de documentaires. Je travaille pour France 2, France 3, Canal+, France 5, Arte notamment, pour les documentaires. Et j'ai publié il y a bientôt 4 ans de cela, en 2018, un premier livre sur les métaux rares qui s'appelle La guerre des métaux rares. Et voici maintenant un deuxième livre publié chez le même éditeur, aux éditions donc Les Liens qui libèrent, sur le coût écologique du numérique, dont le titre est « L'enfer numérique, voyage au bout d'un like ».
Très bien, merci. Alors l'idée ici, c'est vraiment de parler de ce nouvel ouvrage. Pour autant, j'avais quand même envie peut-être que vous réexpliquiez aux auditeurs et aux auditrices la thématique qui animait votre premier ouvrage et que vous reveniez un petit peu sur le pourquoi du comment, pourquoi vous aviez eu envie de vous intéresser aux métaux rares et les enjeux derrière tout ça.
Pendant toutes ces années de journalisme, je me suis fasciné pour les enjeux économiques, politiques, environnementaux entourant les matières premières. Et c'est intéressant de parler de matières premières quand on est journaliste, parce que on peut parler d'une matière, d'une ressource qui est exploitée, extraite très loin, à des milliers de kilomètres de là où se trouve le lecteur ou l'auditeur d'un podcast. Et pour autant rendre cette histoire intéressante, parce que cette matière première va terminer dans son assiette, dans son portefeuille, dans son téléphone mobile. Et tout d'un coup, le lointain devient très proche, parce que nous sommes tous des consommateurs de la ressource. Et donc si je vous parle d'une tomate qui est extraite au fond de l'Australie, ou d'un métal rare qui est extrait au fond de la Chine, a priori, tous les enjeux géopolitiques autour de ces matières premières ne vous semblent pas intéressants, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que vous êtes acteur de cette géopolitique et de tous les enjeux autour de ces matières premières. Les métaux rares, c'est une lecture, il y a une douzaine d'années, métaux dits aussi stratégiques en France. Il y a en France un comité des métaux stratégiques qui dépend de Bercy, donc du ministère de l'économie et des finances, et là je plonge dans un sujet absolument fascinant autour de ces nouvelles matières premières, indispensables pour un monde plus vert, et lorsque je commence à travailler sur ces questions-là, pour France 5, pour la presse écrite, je me rends compte qu'il y a un paradoxe immense dans la transition énergétique qui a besoin de ces matières premières, et que si on aborde la transition sous l'angle de ces ressources sans lesquelles il n'y a pas de monde plus vert, alors en fait la transition n'est pas aussi belle qu'annoncée par les industriels, les publicitaires, les politiques. Et j'enquête pendant des années et j'écris un livre complètement à rebours de ce qui pouvait être dit à l'époque en 2018, quand le livre est publié en 2018, en disant mais en fait tout le monde se pâme devant cette transition énergétique que par ailleurs je souhaite, mais est-ce qu'on a bien conscience des nouveaux défis écologiques, économiques et géopolitiques que cette transition charrie, puisqu'il va bien falloir aller chercher toutes sortes de métaux rares quelque part. Et je m'attendais à un livre qui ne soulèverait aucun intérêt particulier parce que, bon, après tout, ce sujet-là, je l'avais déjà beaucoup travaillé ces dernières années dans une relative indifférence de la part de mes collègues. Et en fait, pas du tout. Ça va intéresser beaucoup de monde. Le livre va être vendu à 75 000 exemplaires, traduit en 8 langues, dont notamment l'anglais. Et donc aujourd'hui, je continue de parler de ce livre, mais dans d'autres langues. Et puis du coup, avec mon éditeur, nous avons eu envie d'écrire un deuxième livre ensemble, enfin c'est moi qui l'écris mais c'est lui qui m'a édité, sur un autre grand récit du capitalisme, non pas les technologies vertes mais les technologies matérielles qui n'existent pas, qui nous permettraient de nous enrichir sans arrêt tout en n'ayant pas d'impact sur l'environnement. C'était une nouvelle idée un peu préconçue à laquelle on avait envie de s'attaquer avec ce nouveau livre.
Toujours la volonté d'aller explorer le lointain, ce qu'on n'arrive pas à percevoir finalement, c'est ce que vous disiez là avec les métaux rares, et c'est la même chose ici avec le numérique et ce nouvel ouvrage.
Oui, absolument, toujours l'envie d'aller explorer certainement ce qui est loin, ce qui est invisible, de continuer à réfléchir à ces questions de matière, ça me fascine, puisque s'intéresser à la matière noire de l'immatériel, que sont toutes ces ressources qui permettent de fabriquer les téléphones mobiles, mais également les centres de stockage de données, les câbles sous-marins, qui permettent de produire l'électricité sans laquelle il n'y a pas de refroidissement de nos centres de données, etc. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Et puis ce qui est intéressant, et je pense que c'est une technique journalistique, c'est de s'attaquer à des grandes conventions collectives, à des grands récits qui créent un consensus, et d'interroger cela, quitte à être provocateur, quitte à secouer un peu, à me secouer moi-même d'ailleurs, mais j'aime bien prendre les idées reçues à rebours et raconter une histoire inversée, une contre-histoire, pourvu qu'elle soit bien argumentée.
Quel type d'idées reçues ?
Eh bien, les idées reçues, par exemple, les deux que je viens d'évoquer, les technologies censément vertes, les technologies censément immatérielles. Et il y en a bien d'autres, en fait, qu'il serait certainement intéressant d'aller explorer à l'avenir.
Alors,
je ne vais pas vous dévoiler tout de suite de quoi je vais parler, mais évidemment, il y a des tas d'idées, des tas de conventions collectives qui paraissent aujourd'hui évidentes et qui pourtant méritent d'être questionnées. Je pense que, encore une fois, je reste vague volontiers parce que je n'ai pas envie trop de dévoiler les sujets sur lesquels je réfléchis actuellement, mais il y a explorer le monde qui vient, c'est aussi accepter cette idée que dans 10, dans 20 ou dans 30 ans, les personnes qui occuperont cette terre vivront une planète complètement différente. Et elles regarderont ce monde de 2021 comme étant un monde primitif peuplé d'Australopithèques. De la même façon que nous regardons quelquefois nos aïeux des années 50, 60 et même avant, en se disant mais comment est-ce qu'ils pouvaient vivre selon... Et il faut respecter pour autant cela, mais comment est-ce qu'ils pouvaient vivre dans le monde dans lequel ils ont vécu, avec les idées qui étaient les leurs, avec les opinions qui étaient les leurs, avec les modes de vie matériels qui étaient les leurs. Et donc si on accepte cette idée que le monde change extrêmement vite, qu'il est bouleversé en permanence par l'éruption de la technologie, alors le nouveau monde qui arrive est imminent, et donc c'est à ce nouveau monde qu'il faut s'intéresser en allant bousculer nos idées un peu conservatrices et en allant au devant de ce qui se fait de neuf immédiatement ou qui se fera de neuf très vite.
Et donc dans ce nouvel ouvrage, vous vous intéressez au numérique, c'est un sujet moi qui personnellement m'intéresse beaucoup. J'avais reçu Maxime de The Shift Project qui s'était justement intéressé à la vidéo et c'est la pollution que cela génère. Vous, vous vous intéressez au numérique plus globalement. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et aux auditrices de Basilic, brièvement bien sûr, parce qu'on ne va pas pouvoir revenir sur l'ensemble des pages du livre, mais pourquoi est-ce que le numérique pollue et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui comme type de pollution ?
Le numérique pollue à plusieurs égards. D'abord, le numérique, c'est ce qu'on appelle une interface. Une interface, c'est un téléphone portable, une tablette, un ordinateur qui aujourd'hui nous sert à rentrer dans le réseau Internet. C'est l'objet qui fait l'interface entre nous et le réseau, la toile. Et donc il faut bien les fabriquer, ces équipements. Donc il y a aujourd'hui en circulation sur Terre à peu près 34 milliards d'équipements qu'il faut fabriquer. Or, leur fabrication et leur utilisation, et puis éventuellement leur recyclage, si recyclage il y a, tout cela génère un impact matériel important, puisqu'un téléphone aujourd'hui, ça contient jusqu'à 60 matières premières. À l'intérieur de votre téléphone portable, vous trouvez toutes sortes de matières premières, quelquefois plus d'un gramme de certaines de ces matières premières. Je cite un exemple, il y a dans le téléphone portable de chacun, s'il est tactile, de l'indium. L'indium, c'est un L'INDIUM, c'est un métal qui, sous forme de poudre, recouvre la surface de nos écrans, et grâce à cette poudre, nos écrans sont tactiles. Imaginez-vous la vie sans indium. Ça existait, mais personne ne veut s'en rappeler. C'était pas une vie aussi confortable qu'aujourd'hui. Et tout d'un coup, ce métal, sous forme de poudre, même si votre téléphone n'en contient qu'une quelques micrograммes, en réalité, ça a complètement changé nos vies. Et donc, si on multiplie cet exemple par l'ensemble des matières premières qui se trouvent dans un téléphone, ça permet de faire un téléphone qui est très léger, mais qui en même temps revêt des tas de fonctionnalités différentes. Un téléphone qui ne sert plus aujourd'hui qu'à téléphoner, mais qui sert à se géolocaliser, à commander une pizza, à rencontrer l'âme sœur, prendre des photos et faire des vidéos. Et donc, en fait, ça rend ces téléphones extrêmement polluants, parce qu'il faut justement les fabriquer avec toutes ces matières premières à l'intérieur. Donc déjà, il y a un coût ici qui représente à peu près la moitié environ de la pollution du secteur numérique. Ensuite, ces téléphones, ils servent à quoi ? Ils servent à émettre des données, à produire des données qui vont transiter et à recevoir des données. C'est quoi la donnée ? C'est un podcast. La donnée, c'est une vidéo de chat. La donnée, c'est un like sur Facebook. C'est un retweet. C'est le nom et le prénom que vous renseignez sur un formulaire de l'hôpital public. Tout ça, c'est de la donnée. Or, la donnée, elle ne va pas d'un téléphone à l'autre. Elle va d'un téléphone à un centre de données qui stocke ces données, les fameux data centers, via des câbles souterrains ou sous-marins, puisque l'information transite à 99% par des câbles sous-marins. Les satellites, pour le moment, ne servent que très peu à faire fonctionner l'Internet. Oh, demain, il y aura un Internet spatial, mais aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour le dire. Et donc, dans ces centres de données, eh bien, toutes sont stockées, toutes nos données. Données qui sont souvent répliquées dans plusieurs centres de données, de façon à ce que si un centre de données tombe en panne, eh bien, automatiquement, d'autres centres de données puissent prendre le relais, de façon à ce que cet Internet ne s'éteigne jamais, finalement. Et donc, ces centres de données, outre qu'ils sont redondés, et que quelquefois, ils tournent à vide, juste au cas où, ils ne serviront jamais, mais il faut quand même juste au cas où les faire fonctionner, parce que si jamais en cas de panne, il y a une panne, il faut qu'ils puissent prendre le relais. Tout cela consomme à nouveau des matériaux, les serveurs qui se trouvent dans les centres de données, et puis ça consomme de l'électricité. L'électricité qui est produite notamment avec quoi ? Du charbon, du gaz naturel, du pétrole, de l'uranium, des métaux pour fabriquer les technologies vertes, et ainsi de suite. Et donc en fait, on se retrouve avec un coût matériel additionnel et un coût électrique, et donc des émissions de gaz à effet de serre. Et un chiffre qui fait à peu près consensus dans cette masse d'informations sur le coût écologique du numérique est celui de 3,7% qui équivaut aux émissions de gaz à effet de serre, enfin plus précisément de CO2 généré par le secteur numérique. Et 3,7%, c'est davantage que le secteur civil aérien mondial. Voilà un petit peu pour brosser un tableau de types de pollution qui peuvent être générées par le numérique.
Alors nous, aujourd'hui, en France et en Europe, c'est vrai que c'est une pollution qui est assez peu perceptible. Est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà été impactés par ces conséquences ? Par exemple, je pense à la construction massive de data centers, des forêts qui auraient été rasées, par exemple. Est-ce qu'il y a eu déjà des conséquences telles quelles ?
Je pense que les premières conséquences d'Internet et du numérique en général sont d'abord, à commencer, je dirais, l'impact minier, l'exploitation minière, pour fabriquer toutes ces interfaces et tous les serveurs. Comme je vous l'ai dit, pour tous ces outils numériques, il faut du silicium, il faut du graphite, il faut du cobalt, il faut des terres rares, il faut du cuivre, il faut de l'indium, j'en ai parlé à l'instant. Donc les conséquences minières, on les voit beaucoup dans les pays notamment pauvres qui acceptent de payer un coût écologique. Je pense en particulier à la République démocratique du Congo qui exploite du cobalt. Je pense également à la Chine qui exploite beaucoup de matières premières de ce type. Si on parle de lithium, alors on peut parler de l'Australie, on peut parler de la Bolivie, qui sont des, et du Chili également, qui sont des pays producteurs de lithium. Demain peut-être l'Afghanistan. Après tout, l'Afghanistan est riche de lithium et de terres rares. Est-ce que les Chinois feront affaire demain avec les Afghans pour pouvoir, enfin avec les Talibans, pour pouvoir extraire les deux matières premières d'un monde plus connecté? Donc voici quels sont les véritables impacts les plus visibles. Après, bien évidemment, ériger un data center, c'est pas anodin. Ce sont d'immenses hangars. Il faut savoir quand même que le plus grand data center de la planète se trouve en Chine. Il fait la surface de 110 terrains de football. Il y a 3 millions de data centers sur Terre. Data centers qui font de la taille d'un frigidaire jusqu'à la taille des 110 terrains de football mentionnés. Donc forcément, cela a un impact spatial. Alors ça peut avoir un impact spatial notamment aux États-Unis, dans la ville de Ashburn, au sud de Washington, où je me suis rendu, qui est connue pour être surnommée la Data Center City. C'est la capitale mondiale des data centers par laquelle transite 70% de nos données. Donc il y a un impact spatial que l'on voit, évident, lorsqu'on se rend dans cette ville, ces gigantesques hangars, pour l'installation desquels il a fallu, et c'est ce que je raconte, effectivement, raser des hectares et des hectares de forêt avec une atteinte à la biodiversité. On peut certainement donner cet exemple également en Scandinavie, où nombre de data centers sont installés, parce que ces data centers, ils sont installés dans le Grand Nord, où il fait froid, pour les refroidir naturellement. Après, si vous voulez, l'impact spatial des data centers, néanmoins, reste quand même relativement limité et leur impact écologique est moindre que celui d'une mine. Pour autant, j'aimerais pas être le résident de la ville d'Ashburn aux États-Unis qui considère qu'il vit dans une ville, dans un comté de data center, comme ils disent là-bas, un data center county. Et évidemment qu'on a tous plutôt intérêt à nous situer loin des infrastructures, tout en profitant. Donc je suis très heureux, à condition que l'on cache ce data center que je ne saurais voir.
Comment est-ce qu'on explique qu'on ait si peu conscience de la pollution que le numérique génère ?
D'abord, je pense que les pionniers du net, les pionniers du web, étaient libertaires. Et à l'instar de John Perry Barlow, l'écrivain, l'auteur de la déclaration, de la célèbre déclaration d'indépendance du cyberespace en 1996, ces gens-là concevaient Internet comme étant un monde dématérialisé où, puisqu'il n'y avait pas de matière, eh bien, les internautes pouvaient se mouvoir sans avoir à subir toutes les lourdeurs et les interdits du monde physique. C'était pensé comme tel, c'était une philosophie. Et John Perry Barlow dit dans sa déclaration de l'indépendance du cyberespace, en s'adressant aux dirigeants politiques du monde réel, dans notre monde à nous, il n'y a pas de limite car il n'y a pas de matière. Et je pense qu'ils ont vraiment conçu sincèrement un monde qui serait dématérialisé, dans lequel on pourrait se mouvoir plus librement et exprimer davantage ses opinions sans subir les interdits du monde physique et les carcans donc du monde physique. Et donc il y a eu cette idée d'un monde dématérialisé où on a sincèrement cru qu'on fabriquer quelque chose de dématérialisé. À l'époque, l'Internet n'avait pas du tout la tête qu'il a aujourd'hui. En 1996, l'Internet devait être, je ne sais pas combien de fois, moins répandu, moins redondé qu'il ne l'est aujourd'hui avec les quelques chiffres que je vous ai cités. Ensuite, je pense que est venu s'ajouter là-dessus ensuite un discours marketing et qui est venu faire croire que Internet n'existait pas. Et c'est le fameux nuage, le fameux cloud. Alors, le mot cloud n'a pas été posé et introduit dans le langage courant pour nous faire croire qu'Internet n'existait pas. Mais après coup, tout d'un coup, ce mot est devenu très pratique pour nous faire penser que nous stockions nos données littéralement nulle part ou peut-être dans le ciel. Quand on va sur Google et qu'on tape cloud, Internet et qu'on va sur images, on va retrouver tout cet imaginaire visuel autour de cette espèce de masse informe et éthérée dans laquelle seraient censément stockées nos données. Or, le nuage, il touche le sol partout sur Terre. Donc, il y a eu un marketing. Et ensuite, le dernier point pour moi qui est important, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable, imaginé par Steve Jobs, est un bel objet. Steve Jobs imagine le téléphone portable comme étant un produit éthéré, vierge, pur, un peu à l'image de ces temples bouddhistes zen au Japon, et il veut reproduire avec le téléphone portable cette perfection esthétique qu'il estime avoir trouvée dans les temples bouddhistes zen. Et même si lui-même n'est pas bouddhiste, il trouve que c'est une perfection esthétique. Et en fait, il nous met entre les mains un objet qui est un bijou. Or, comment est-ce que un tel objet peut-il être sale puisqu'il est beau ? Et comment peut-il dissimuler une infrastructure qui est complexe quand l'utilisation de ce téléphone elle-même est plutôt simple. Et donc ce téléphone nous empêche de comprendre la nature même du numérique, la nature même Internet, parce qu'il est beau et parce qu'il est simple à utiliser. Et je pense que ça nous rend la tâche plus compliquée lorsqu'il s'agit de comprendre cette pollution numérique.
Pour autant, on commence quand même à en parler un petit peu, et le rapport du Shift Project au sujet de la vidéo avait été quand même pas mal relayé, donc je pense que ça va aussi évoluer au fur et à mesure. Malgré tout, et vous l'expliquez aussi, mais la génération un petit peu plus jeune que moi utilise beaucoup les téléphones portables, et ce qui laisse penser que d'ici quelques années, l'usage du numérique sera encore plus grand et que donc la pollution sera démultipliée.
Pour un nouveau podcast, nous considérons en 2031 que les usages qui étaient faits du numérique en 2021 étaient tout à fait sporadiques et tout à fait balbutiants par rapport à l'utilité que nous aurons du numérique en 2031. Parce qu'il est déjà annoncé que le numérique permettra de connecter tous les objets à tous les animaux, à tous les végétaux et à tous les hommes. Les animaux seront connectés, les objets seront connectés, les végétaux seront connectés, les hommes seront connectés, et demain je serai un déchet électronique moi-même, bardé de capteurs, pour lequel il faudra à ma mort une filière de recyclage et une économie circulaire compétitive. Donc en fait, nous allons en devant d'un tsunami numérique, où nous allons produire toujours plus d'interfaces, qui vont permettre de produire toujours plus de données, pour lesquelles il faudra toujours plus d'interfaces, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'impact écologique du numérique, sauf signe noir, comme on dit en prospective, incroyable, et après tout, qui sait, mais compte tenu de son évolution et de sa dynamique actuelle, il ne peut que s'aggraver. Et c'est là qu'intervient la génération Greta, qui est une génération que j'admire, et j'admire Greta Thunberg, qui nous met, nous, moi en tout cas, qui ai 40 ans, face à nos responsabilités de consommateurs. Elle nous interroge sur notre consommation de viande, de plastique, d'avion, et je trouve ça très sain. Mais paradoxalement, cette génération est aussi celle qui consomme le plus de ces produits numériques. Un jeune de 18 à 25 ans en France, qui a entre 18 et 25 ans en France, ce jeune a en moyenne eu entre les mains déjà 5 téléphones portables, il en est à son 6e. Et ce jeune consomme des services numériques comme personne. Et si j'écoute ma petite nièce de 15 ans et quand j'écoute les sites sur lesquels elle fraye, je comprends que je n'y comprends rien. Donc évidemment qu'il faut les interroger, il faut les interpeller en disant, est-ce que cet outil qui est numérique, qui à coup de hashtag vous permet de vous rassembler le vendredi pour faire la grève, est-ce que, et donc au service de la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce que ce numérique en même temps n'est-il pas en même temps un ennemi qui, entre vos mains, va vous permettre de faire un usage complètement immodéré et déraisonné de cette technologie avec un impact sur la planète qui va s'aggraver? Donc, je vous pose la question, serez-vous vraiment la génération climat?
Je ne sais pas si je fais partie de cette génération, un peu plus que 25
ans. Je parle à la génération Greta, hein, je ne parlais pas à vous.
Non, je me doute. Oui, mais c'est très intéressant et effectivement, ça donne envie de voir comment tout ça va évoluer. Et dernière question pour terminer, est-ce qu'il existe un numérique durable? Alors, est-ce que c'est possible d'imaginer un numérique durable, je ne sais pas moi, des conventions à l'échelle internationale, des mesures strictes?
Alors déjà, le numérique durable, il est possible et il est, on peut le mettre en pratique tout de suite. C'est-à-dire que si on dit qu'on ne va pas jeter son téléphone tous les 2 ans, mais qu'on va le garder, eh bien, ça rend tout d'un coup ce numérique beaucoup plus durable quand on sait encore une fois que les interfaces, c'est la moitié de la pollution numérique. Personnellement, j'ai un iPhone 7 que j'ai acheté d'occasion et que j'ai déjà fait réparer 3 fois. Et avant lui, j'avais un iPhone 5 que j'avais gardé 5 ans et que j'avais réparé 20 fois. Bon, déjà, si chacun comprend que garder ses outils numériques le plus longtemps possible, les acheter d'occasion, les revendre d'occasion, les réparer et in fine les faire recycler, c'est bon pour la planète, déjà, ça permet un numérique plus respectueux de l'environnement. Après, je pense que la question va se poser de savoir comment est-ce que consomme toutes ces données. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces données? Quelles sont les données qui sont vraiment utiles? Quelles sont les données qui sont moins utiles? Est-ce qu'on a bien compris que si Internet est gratuit, c'est parce qu'en échange, nous sommes un produit qui intéresse fortement les GAFAM et qui ponctionne de l'information sur nous et que cette information, c'est de la donnée. Est-ce que nous sommes prêts à accepter demain de payer peut-être un petit peu plus pour Internet, pour des services numériques qui aujourd'hui sont censément gratuits, mais qu'en échange de quoi, notre vie privée sera mieux protégée puisque moins de données seront ponctionnées et du coup, eh bien, il y aura moins de données de stocker et donc l'impact environnemental pourrait être réel. Est-ce que nous pouvons mettre en place un numérique responsable aussi en réfléchissant à la façon dont nous consommons même ces données? Je prends par exemple ce chiffre absolument édifiant. Si je regarde une vidéo sur mon téléphone en passant par ma borne avec un signal Wi-Fi que par l'antenne 4G, l'électricité consommée est 23 fois moindre via la Wi-Fi que via la borne 4G. Donc, est-ce que j'ai besoin de regarder une vidéo en ultra haute définition sur un téléphone qui fait 4 cm sur un écran qui fait 4 cm de long sur 4 cm de large? Est-ce que je ne peux pas abaisser la qualité de cette vidéo pour avoir un service qui soit aussi confortable à l'œil et qui pour autant lui-même soit moins consommateur d'électricité? Donc il y a plein de petits gestes au quotidien qui par ailleurs sont de plus en plus chapeautés par le législateur. En France, une loi sera probablement votée par l'Assemblée nationale en novembre à l'initiative d'un député, LR, Patrick Chaise, et qui vise notamment à faire en sorte que les produits soient plus réparables, qu'ils soient gardés davantage de temps, qui permet de faire en sorte que les mises à jour des interfaces, et, enfin les mises à jour pardon, des applications soient limitées au strict besoin de protéger la sécurité des applications. Cette loi pose également un certain nombre d'obligations pour les acteurs du monde des data centers pour qu'ils consomment moins d'électricité. Donc il y a également une accélération de l'encadrement réglementaire et législatif, notamment à l'échelle française, celle que je connais le mieux, pour pouvoir faire en sorte de faire coïncider numérique et environnement.
C'est plutôt encourageant alors.
Il y a des choses encourageantes et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons toutes les solutions entre nos mains. À l'échelle quotidienne, nous pouvons tous agir.
Tant mieux. Merci beaucoup Guillaume, c'était très intéressant.
Merci à vous.
Et puis rendez-vous est pris pour dans 10 ans faire un point. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. L'ouvrage de Guillaume Pitron est bien évidemment indiqué dans la barre de description de l'épisode. Et si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous conseiller de lire ce thriller journalistique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.